tests de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
25 ans de Funky Revolutions, nos archives magnétiques du Mothership. Épisode 20, nous continuerons avec nos entretiens avec les stars du reggae africain francophone, de ces scènes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, en outre. Des entretiens avec Alpha Blondy et nous continuerons avec Tikenja Fakoly.
Funky Revolutions, funky!
Funky Revolutions, funky!
Yeah, yeah, yeah.
Funky Revolutions,
whoa,
funky!
Oh, yeah, yeah, yeah.
Funky Revolutions, funky! You are listening to Funky Revolutions!
Uy, silhouette!
We're now going to turn to music from Tikenja Fakoly. I was supposed to interview him yesterday, but won't get a chance to speak with him until Tuesday. But I did dig up an old interview I did with him the first time he came to Montreal. A concert, he says, probably marked him the most in his career. We're going to hear a couple of songs in this next set from Tikenja Fakoly. First, a song called Plus Jamais Ça. This was from an album that emerged at the time in 2002, Manger Crassi, followed by the words and interview in 2002. Tikenja Fakoly from Côte d'Ivoire, but living in exile mainly in Mali. This is Tikenja Fakoly with Plus Jamais Ça on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Plus jamais ça,
on a déconné.
Plus jamais ça,
on a déconné.
Quand ça commence, les bus s'enflamment. Lorsqu'il y a grève, les maisons en feu. Quand on est fâché, on casse tout. Est-ce la solution? Arrêtez-moi tout ça là, non, non, non. Nous avons déconné,
on a déconné.
Arrêtez-moi tout ça là, oh là là. On a déconné. Quand ça commence, les voitures en flammes. Lorsqu'il y a marche, les villes paralysées. Quand on est fâché, on brûle tout. Où est le sérieux? Arrêtez-moi tout ça là. On a déconné.
On a déconné.
Arrêtez-moi tout ça là. Oh là là, on a déconné. Wameta dofo kolokumba nyana Nanga dofo loseni banyana Wameta dofo lasina banyane pia Quand ça commence Et que tu chantes des camps Tu deviens automatiquement libéria Ou bien gagné Sinon on t'appelle le Burkinabé Tout simplement parce que t'as changé de camp Plus jamais ça
On a déconné
Plus jamais ça
On a déconné
Quand ça commence Et que tu tiens des camps Tu deviens automatiquement le Tchani Mambo Oui le persona non grata Parce que tu as changé de camp Plus jamais ça
On a déconné
Plus jamais ça
On a déconné
Mais pourquoi casser nos acquis Mais pourquoi réprimer les citoyens Au nom de quelle politique faut-il détruire Au nom de quelle politique faut-il diviser mon peuple
On a déconné
Plus jamais ça
On a déconné
Je ne veux plus voir ça oh,
On a déconné
Plus jamais ça
L'intérêt de la nation d'abord
On a déconné
Je ne vais plus voir ça Oh là
On a déconné
plus jamais ça.
On a déconné.
On ne veut plus voir ça. Oh
on
là
a
là. Plus jamais ça.
On a déconné.
Oh non, plus jamais ça.
On a déconné.
On ne veut plus voir ça.
On CKT 90.3 FM. The music and words of Tiken Dja Fakoly, reggae star from Côte d'Ivoire living in exile in Mali. He performs the 12th of July at the Metropolis as part of the Festival Nuit d'Afrique. Peut-être on pourrait parler un peu de votre musique en débutant
oui.
votre carrière et ce qui vous a amené à vous exprimer dans le style reggae.
Mais en fait, d'abord moi j'ai découvert le reggae dans mon village natal, dans le nord là, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 950 km d'Abidjan, qui est la capitale de mon pays. Et c'est là-bas que j'ai allé à l'école, c'est là-bas d'ailleurs que je suis né, et c'est là-bas que j'ai connu des gens comme la musique, des gens comme Burna Spears, comme Bob Marley, comme U-Roy, tout ça. Et j'ai demandé à chaque fois aux gens qui comprennent l'anglais qu'est-ce que celui-là il dit, qu'est-ce que les mecs ils disent dans les chansons quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune Ghanéen à mes débuts qui m'expliquait. Et puis bon, c'est là que j'ai découvert que c'est des gens qui combattaient en fait, qui parlaient beaucoup d'injustice, d'égalité, tout ça. Et ça m'a vraiment pris. Bon, autour de moi déjà dans ma famille il y avait trop d'injustice parce que mon père avait trois femmes. Et donc les enfants étaient différents de mères, et puis bon, il y avait trop d'injustices autour, et c'est des trucs qui m'avaient énervé, et puis bon, je me suis mis à écrire des textes comme mes frères jamaïcains. Mais au début, je me suis dit que le reggae, c'était seulement pour les Jamaïcains, et il y a Alpha Blondy qui a sorti son premier album en 81-82, et à partir de ce moment, je me suis dit, mais tiens, si lui, il est de la même ethnie que moi, et qu'il fait du reggae, c'est que moi aussi, je peux. Et c'est à partir de ce moment que je me suis vraiment lancé dans la musique, sinon dans le reggae.
Et quand le reggae commence à être créé en Afrique, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous amenez quelque chose d'autre aussi à l'expression et au développement du reggae international?
Ah bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a le reggae jamaïcain et le reggae africain, il y a une petite différence parce que nous chantons dans la langue maternelle, c'est-à-dire la langue africaine que les Jamaïcains ne connaissent pas parce qu'ils ont été arrachés à cette terre. Et donc, même quand je suis allé en Jamaïque ou bien quand je suis en tournée en Europe ici et que je rencontre des Jamaïcains, c'est le fait qu'ils sont marqués par le fait que nous, on chante dans une langue africaine, et pour eux, c'est quand même quelque chose qui s'ajoute à la force du reggae. Et bon, sinon, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, les artistes reggae ont contribué quand même à prouver à la jeunesse que l'on pouvait s'exprimer librement, parce que les autres musiques chantaient les louanges des chefs d'État, des ministres, des hommes qui ont les moyens financiers, tout ça. Et bien, les reggae sont arrivés, ils ont commencé à dire des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, et je pense que c'est ce que le reggae africain apporte aujourd'hui.
Dans cette musique-là, dans cette culture rastafariane, quelles sont les relations que vous entretenez avec ce côté culturel, spirituel, qui a d'une manière engendré ce style de musique?
Mais en fait, nous, en fait, moi personnellement, j'ai toujours dit que je ne suis pas complètement rasta. J'adhère au mouvement. Mais par rapport à la religion, je me retiens un peu parce que nous, Africains, on n'a pas la même manière de voir Haïlé Selassie comme les Jamaïcains le voient. Parce que pour nous, Haïlé Selassie, c'est un ancien chef d'État africain qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Hein? Et pour les Jamaïcains, c'est un dieu, c'est le Jésus-Christ noir. Et donc chacun développe ça à sa manière. Ce qui nous réunit quand même, c'est le rythme du reggae, c'est le message qui combat l'injustice et qui parle de l'égalité sociale et tout quoi.
Cette relation entre le reggae et l'inégalité, la politique, la vie du peuple, de la souffrance, quelles sont les expressions, les visions textuelles que vous avez à ce niveau-là? De quoi chantez-vous en ce moment?
Mais en fait, le message de Magicratie, c'est d'abord Sinon, l'objectif que je visais à travers cet album, c'était de promouvoir la liberté d'expression, c'est-à-dire dire des choses que les anciens dirigeants n'avaient jamais entendu parler, en fait, qu'ils n'avaient jamais entendu. Et puis essayer de prouver à ces gens-là que s'ils sont au pouvoir, c'est grâce au peuple. Et donc, il faut qu'ils respectent le peuple. Il faut qu'ils respectent le peuple. Et je pense que c'est cet objectif qu'on visait à travers le message de titre de Manger Classique.
En ce moment, en Côte d'Ivoire, on voit à travers l'Afrique de grands changements. Quels sont les obstacles ou les défis dont le peuple de Côte d'Ivoire fait face en ce moment?
Ben, en fait, le défi aujourd'hui, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire a envie que un leader politique ou un président de la République choisisse à leur place. Ils veulent aujourd'hui voter un président qu'ils auront quand même choisi par les urnes. Et que aujourd'hui, qu'on ne fasse pas croire que c'est une seule ethnie qui est capable de diriger la Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est un peu partout, c'est un peu le cas un peu partout dans les autres pays africains. C'est que depuis l'indépendance, on a les ethnies qui ont pris le pouvoir, on fait croire aux autres que c'est eux seuls qui peuvent rester au pouvoir, que c'est eux seuls qui ont droit d'être président ou ministre, etc. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien veut prouver que nous sommes plus de 62 ethnies, c'est-à-dire il y a 62 langues différentes qui se parlent en Côte d'Ivoire, et que la présidence de la République doit se donner à celui qui le mérite, et pas à ceux qui croient que le pouvoir c'est à eux, parce que d'après l'indépendance c'est eux qui ont pris le pouvoir et autres, voilà. Et je pense que si le peuple ivoirien réussit ses paris, les autres pays autour de nous, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, tout ça suivront, quoi, parce que tous ces pays regardent vers la Côte d'Ivoire. La preuve, la plupart des immigrés en Côte d'Ivoire, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens, c'est des Ghanéens, voilà quoi.
On a vu toutes les autres classes. Maintenant, on veut la manger crassi ou rien.
On a tout compris. dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers, papa.
On a tout compris. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario.
On a tout compris.
Les marchands d'illusions sont là.
On a tout compris.
Ils nous font rêver debout.
On a tout compris.
Ils achètent nos consciences contre des miettes. Madalame de la Mingambeda.
On a tout compris.
Ou Madalame Manama Kamenda.
On a tout compris.
Ngunde Tala Nyema Ganyo.
On a tout compris.
Ngunde Tala Nyema Ganyo.
On a tout compris.
Ou Madalame de la Mingambeda.
On a tout compris.
Madalami mana mana kambenda.
On a tout compris.
Ngunde tala nyema ganyo.
On a tout compris.
Ngunde tala nyema ganyo.
On a tout compris.
Ngunde tala nyema ganyo.
On a tout compris. On a tout compris.
On CKNT 90.3 FM, the music and words of Tiken Jah Fakoly, reggae star from Cote d'Ivoire, living in exile in Mali. He performs the 12th of July at the Metropolis.
Vous avez parlé un peu plus tôt de la pluie et l'écoute des jeunes à votre musique, au reggae en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une possibilité d'exprimer plus librement.
Ouais.
Quels sont les changements que cette culture d'expression, d'analyse, de critique, d'appel à la liberté pourront avoir dans les changements qui viennent en Côte d'Ivoire?
Ben, je dirais que ça a déjà eu un impact par rapport au changement de régime en Côte d'Ivoire, parce que l'ancien régime se croyait indéracinable, je veux dire, c'est-à-dire qu'il se croyait, il pensait que le pouvoir était leur propriété et que personne d'autre ne pouvait accéder à la présidence de la République. Et donc, le message du reggae, je veux parler du message d'Alpha Blondie, de Tiken Jah, de Serge Kassi, de Ismaël Isaac, on est nombreux en Côte d'Ivoire. Et donc, les reggaemen ont été les premiers à dénoncer le côté négatif de l'ancien régime. Et ça fait que, quand le régime est tombé le 24 décembre 99, le 24 décembre 2000, en fait, au 99, pardon, les journalistes ont reconnu que la grande partie du combat a été menée par les artistes. Donc je peux dire que le reggae a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, même par rapport à la situation actuelle, la population attend les reggaemen, parce que deux semaines avant les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire il y a la semaine dernière, je veux dire, moi j'avais fait une interview dans un journal français qui s'appelle L'Express, et dans lequel j'ai dénoncé le côté négatif du régime militaire du général Gay. Et après il y a Alpha Blondie qui a dénoncé, et puis bon, quelques jours après il y a eu un mouvement que vous êtes sûrement au courant, vous avez dû entendre parler peut-être. Donc c'est pour dire simplement que le reggae aujourd'hui est une force en Côte d'Ivoire et que le peuple écoute les reggaemen et que c'est une réalité, quoi.
Si vous avez une telle position ou fonction politiquement, culturellement, quelles sont les pressions sur les artistes reggae en Côte d'Ivoire?
Ben en fait, les pressions qu'on nous subit là-bas, en fait, c'est que souvent ils veulent pas qu'on passe à la radio, ils veulent pas qu'on fasse des interviews, ils veulent pas jouer nos disques parce qu'ils pensent que ça peut amener beaucoup de choses. Et puis on rencontre souvent des provocations, en fait, des policiers qui nous agressent dans les rues parce que soit Tiken Jah a porté un pantalon gris. Hein, ou bien tel ou tel artiste est habillé de cette manière, ou bien il a fait un truc. En tout cas, les gens trouvent toujours quelque chose à dire pour nous créer des problèmes. Mais à partir du moment où nous savons qu'il y a un piège qu'on essaie de nous tendre, on essaie de l'éviter, quoi. On essaie d'éviter parce que nous savons que nous avons un rôle, c'est d'informer, d'éduquer la population. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Nous savons que nous sommes sur le droit chemin, et puis voilà, quoi.
En dernière partie, peut-être vous pouvez nous orienter ici à Montréal. sur la topique musicale en Côte d'Ivoire. Il y a la musique reggae, roots, culture. Est-ce que les gens gravitent aussi sur les nouveaux styles de reggae, dancehall, les choses comme ça, et les autres musiques urbaines? Si j'étais un jeune en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à quoi j'écouterais en autre avec le reggae?
Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le reggae roots. Pas de dancehall, pas de ragamuffin. Bon, en fait, c'est juste le roots, parce que les gens sont plus branchés sur le message. Le message, c'est le reggae roots qui marche là-bas. Si vous étiez un jeune Ivoirien aujourd'hui, je pense que vous serez branché sur le reggae roots, parce que il y a aussi d'autres musiques comme le zouglou qui parlent aussi des réalités du moment, de l'actualité et tout ça, mais qui ne sont pas pris au sérieux comme les artistes reggae. Hein, qui ne sont pas plus sérieux comme les artistes. Non, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui essaient de faire du rap, tout ça, comme au Sénégal. Aujourd'hui, on sait que le rap marche très bien au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, c'est le reggae. Il y a des gens qui font le reggae et le rap en Côte d'Ivoire, mais c'est des gens qui vivent dans les quartiers chics d'Abidjan et donc qui disent des choses qu'ils ne vivent pas du tout, qu'ils ne vivent pas, ils ne savent pas, ils racontent des trucs parce qu'ils savent que ceux qui font du rap aux États-Unis vivent dans les ghettos, disent des trucs, donc par rapport à ça, ils disent des trucs, mais quand les gens savent qu'ils vivent à Cocody, dans le même quartier que le président de la République, qu'ils vont dans les écoles françaises en Côte d'Ivoire et qu'ils viennent nous raconter des choses du ghetto, bon, donc ça n'intéresse pas toujours le peuple. Mais donc pour nous, les reggaemans qui vont dans le ghetto, qui rencontrent les réalités du ghetto, et c'est à ça les gens s'intéressent aujourd'hui, quoi. Voilà.
Oba, oba. Tout ça c'est oba oba.
Oba oba.
Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'est oba oba.
Oba, oba.
Tout ça c'était oba oba.
Oba, oba.
Tout ça c'est oba oba.
Oba, oba.
Tout ça c'était oba oba.
Oba, oba.
L'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Promesse annoncée, promesse oubliée. Corruption, xénophobie n'ont pas eu d'adversaire. Mon peuple pleure parce qu'il n'en peut plus. Tout ça c'est oba oba,
oba, oba.
Tout ça c'était oba oba,
oba, oba.
Tout ça c'est oba oba,
oba, oba.
Tout ça c'était oba oba,
oba, oba.
Nous avons voulu, mais cette fois nous n'avons pas pu. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Corruption, xénophobie n'ont pas eu d'adversaire. Mais on nous fait croire que tout va très bien. Mais ça, ça veut dire, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire. Tout ça, c'est oba, oba.
Oba, oba.
Tout ça, c'était oba, oba.
Oba, oba.
Tout ça, c'est oba, oba.
Oba, oba.
Tout ça, c'était oba, oba. Continue de nous faire marcher sous le soleil et la pluie. Souvent ils ont des militants qui les abandonnent en pleine bataille. Et pendant les élections, ils vont toujours en rang dispersé. Mais ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, ça veut dire. Koboroma lata nula, politicien ni meye weya fola. Koboroma lata nula, ha 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 ha, jaboroma lata na. Koboroma lata nula, politicien ni meye weya fola. Aborobera komolu, olu ye weya fola. Aboronu mangoro molu, olu te tunye fola. pour malata nola politicien limbeye we are fola anya wala ngoleba ngoba anya wala nyaleba anya wala ngoleba ba anya wala nyaleba pour malata na jaja pour malata nola ja pour malata nola wo 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 pour malata na Ja ja broma la danola Ja broma la danola wa 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 broma la dana Oba oba
This is CKUT 90.3 FM in Montreal. You've been listening to an interview recorded in 2002 with African reggae star Tiken Dja Fakoly.
Dans mes albums, j'ai toujours défendu l'Afrique, j'ai toujours parlé de l'Afrique, de revaloriser un peu l'Afrique, dire aux gens, bon voilà, j'ai dénoncé le comportement des hommes politiques en Afrique, j'ai dénoncé la politique, l'ingérence, je dirais, de l'Occident dans la politique africaine, j'essaie de parler, pardon, de l'unité africaine, et j'essaie aussi de dire à tous ceux qui n'ont pas encore mis les pieds en Afrique, d'arrêter de mal parler de l'Afrique parce que l'Afrique c'est un continent d'hospitalité, de fraternité, c'est un continent où il y a de belles choses à voir. Je fais appel à toute la diaspora, je fais même appel à tous les frères des Antilles, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe, je leur dis de regarder vers l'Afrique parce qu'ils ne seront pas d'autres personnes que des Africains.
Tikenja Fakoli sur les ondes de CKUT, bienvenue. Je voudrais commencer peut-être en parlant d'un nouveau album qui va apparaître pour le public en septembre de cette année. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu où vous allez, quelle aventure vous allez ouvrir avec ce nouveau album africain?
Ben, la nouvelle aventure, c'est, je dirais que bon, elle n'est pas vraiment nouvelle puisque dans mes albums, j'ai toujours défendu l'Afrique, j'ai toujours parlé de l'Afrique. Et, sauf que cette fois-ci, j'essaie de faire un break par rapport à cette défense. Enfin, j'essaie de revaloriser un peu l'Afrique, dire aux gens, bon, voilà, j'ai dénoncé le comportement des hommes politiques en Afrique, j'ai dénoncé la politique, l'ingérence, je dirais, de l'Occident dans la politique africaine. Mais cette fois-ci, il faut que les Africains... j'essaie de parler, pardon, de l'unité africaine. Et j'essaie aussi de dire à tous ceux qui n'ont pas encore mis les pieds en Afrique d'arrêter de mal parler de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent d'hospitalité, de fraternité. C'est un continent où il y a de belles choses à voir, où... le climat nous a tout donné.
Par rapport à l'identité africaine que vous faites valoir, et en tant que reggae man, vous connaissez et vous faites partie de la diaspora africaine. Est-ce que vous avez soulevé ces questions d'identité de l'échalandage africain à travers le monde dans ce nouveau album?
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est... le premier titre de l'album, qui d'ailleurs s'appelle L'Africain, et dans ce titre, j'ai fait appel à toute la diaspora. J'ai fait même appel à tous les frères des Antilles, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe. Je leur ai dit de regarder vers l'Afrique parce qu'ils ne seront pas d'autres personnes que des Africains. Et donc voilà, c'est un peu le rassemblement des fils de l'Afrique en Afrique que je chante dans cet album.
Vous avez eu la chance de travailler avec Hugh Roy et Anthony B, et même, je crois, d'enregistrer au Jamaïque. Qu'est-ce que ça représente, cette opportunité, l'expérience jamaïcaine par rapport aux albums comme celle de 2004, Coup de gueule?
Mais pour moi, l'expérience jamaïcaine, ça faisait partie de mes ambitions. C'est-à-dire, moi, je me suis dit que pour concrétiser... la prophétie de Bob Marley qui disait que le reggae un jour va retourner en Afrique. Et il fallait qu'il y ait des collaborations entre les Jamaïcains qui ont créé cette musique-là et pourtant qui sont d'origine africaine et nous qui faisons du reggae aujourd'hui sur le continent africain. Hein, ça faisait partie de mon rêve. Et donc, moi, j'avais toujours rêvé de créer ce pont musical entre la Jamaïque et l'Afrique. Et c'est ce que ça m'a...
Vous avez eu à collaborer aussi avec des jeunes musiciens, des rappeurs. Comment vous vous rejoignez avec ces autres mouvements de rythme et de griotisme moderne?
Mais surtout, ce qui concerne le rap, je pense que le rap, c'est un peu la musique au niveau du message qui est la plus proche du reggae. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Sénégal... les artistes qui prennent position, qui disent ce qu'ils pensent réellement à la classe dirigeante, ce sont les artistes qui font ce sont les artistes rappeurs, je dirais. Et donc, pour moi, c'est des gens qui sont pas très, très loin de nous. Et voilà, c'est carrément c'est la même famille, quoi. Donc, pour moi, faire des trucs avec eux, c'est prouver que nous sommes dans le même bateau, que nous sommes dans le même combat. Et même dans le prochain album qui va sortir le 24 septembre, j'ai fait appel à un jeune rappeur qui vit à Marseille, mais qui est d'origine, de Comorienne. Et donc, qui vit à Marseille, qui joue dans un qui est dans un groupe qui s'appelle les Sticat et qui est très très connu en France. Donc pour moi, c'est des gens qui ont un message fort. Le rap au niveau de l'Afrique est très très intéressant puisque ça n'a rien à voir. Le message du rap en Afrique n'a rien à voir avec le message du rap en Amérique. Quand tu vois le rappeur américain, bon, dans les clips, c'est très souvent des filles en culotte ou le monsieur qui montre ses muscles, tu vois. Et pour nous, les rappeurs africains sont aujourd'hui les plus représentatifs. Donc, par rapport au message, c'est ça qui m'attire, c'est ça qui fait que je fais appel à des jeunes. Je fais appel à Didier Awadi d'abord, qui est très très représentatif au niveau de l'Afrique par rapport au rap. Et puis Soprano aujourd'hui en France, c'est l'un des jeunes les plus écoutés par les fans du rap.
Vous, avec Soprano, je n'ai pas entendu la chanson, mais c'est intitulé, je crois, Ouvrez les frontières. Vous vous êtes rejoint avec Soprano et je compense aussi Majid Cherfi. Sur la question de l'immigration, et ces thèmes-là, l'immigration, émigration et exil, c'est pas quelque chose d'étrange à vos paroles, à vos textes. Vous avez déjà, par exemple, parlé de l'expérience de l'émigration ou l'exil avec la chanson « Où veux-tu que j'aille ?». Comment est-ce que vous voyez la situation pour les jeunes immigrés en ce moment, ces jeunes hommes qui sont représentés, par exemple, dans les chansons « Ouvrez les frontières ». Qu'est-ce que vous cherchez à proposer avec ces thèmes-là
ou ces textes? Mais ce que je cherche à proposer, c'est je cherche simplement à dire à l'Occident d'ouvrir les frontières parce que les jeunes Africains ont le droit de venir en Occident quand ils veulent. Parce que les Occidentaux, quand ils veulent, ils se lèvent, ils viennent en Afrique le matin ou le soir, ou quand ils veulent, ils prennent le visa et viennent chez nous. Et maintenant, quand il s'agit, quand les jeunes Africains veulent faire un tour en Occident, ben, c'est tout un problème. Donc, moi, à travers cette chanson, j'ai envie de dire que ces jeunes-là ont le droit de bouger, d'aller partout dans le monde, parce que les gens de partout dans le monde viennent chez eux. Maintenant, en tant que leader d'opinion, j'essaie aussi de dire à ces jeunes-là qu'ils ont le droit, mais est-ce que c'est forcément une bonne idée? Parce que ceux qui sont partis ne vivent pas forcément là-bas dans un paradis. Hein, parce que la réalité, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, les Africains sont esclavagisés puisqu'ils sont sous-payés. On refuse de leur donner les papiers pour qu'ils ne pas qu'ils soient dans la légalité, parce que s'ils sont dans la légalité, ils vont être payés comme tout le monde. Ou bien ils vont être soignés comme tout le monde, on va s'occuper d'eux comme tous les citoyens de ces pays en Occident. Et donc, j'essaie d'expliquer aux jeunes qu'ils ont le droit de partir, mais que ce n'est pas forcément une bonne idée, qu'il faut qu'ils se renseignent sur la manière dont leurs frères qui les ont défoncés vivent ici.
Kanaki, je suis un Kanaki. Kanaki, moi je suis un Kanaki. De Kanaki à mon pays, l'océan semble bien trop grand. Pourtant je te comprends. On dit que t'es Kanak, on m'a dit je ne suis pas d'ici. La Côte d'Ivoire s'est déchirée et toi tu n'as cessé de lutter pour ton identité. Kanaki, je
Kanak et Roy. Moi je suis un Kanaké. De Kanaké à mon pays, l'océan semble bien trop grand. Pourtant je te comprends. On dit que t'es Kanak. On m'a dit je ne suis pas d'ici. La Côte d'Ivoire s'est déchirée. Et toi tu n'as cessé de lutter pour ton identité. Aïe oui, Kanaké. Aïe oui. Aïe oui, Kanaké. Aïe oui. Aïe oui. Je suis Kanak et j'en suis fier. Des Kanak c'est un honneur. Aujourd'hui rapprochons les terres et brisons toutes les frontières. Il n'y aura pas de bras baissés et pas question de renoncer. Le chemin vers la paix ne sera pas sans fin. Aïe oui, Kanaké. Aïe oui. Aïe oui, Kanaké. Aïe oui. Aïe oui, Kanaké. Aïe oui. Aïe oui.
Vous-même avez dû quitter la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous vivez en ce moment cet exil? Ça ne vous a pas freiné en tant qu'artiste et en tant que réalisateur et promouveur de la musique du reggae?
Non, du tout, moi, pas du tout. Hein, ça ne m'a pas freiné du tout. Hein, parce que, de toute façon, depuis que moi je suis parti en 2002, je dirais que ma carrière n'a fait qu'évoluer parce que je n'ai pas baissé les bras. Parce que moi, je me dis, même si je suis en exil, je suis sur un champ de combat. Et donc, tant que je n'ai pas terminé ce combat, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Donc, moi, je suis parti parce que, bon, je dirais pour des raisons de sécurité. Et puis, voilà, je me suis dit, en tout cas, en restant en Côte d'Ivoire, j'allais être obligé d'avoir peut-être la langue du bois, dire, arrêter la guerre, arrêter ceci. Tout le monde a raison, ou bien tel n'a pas raison, etc. Donc moi, j'ai un combat à mener. J'ai besoin d'être libre pour mener ce combat. J'ai besoin de m'exprimer, de dire ce que je pense du fond de mon cœur. Et donc, voilà, c'est la raison de mon départ, quoi. C'est pourquoi je suis parti. Et puis bon, je regrette pas du tout. Ça fait 5 ans que je suis en train de mon pays, mais ma carrière n'a pas stoppé du tout.
Ces questions de sécurité sont très réelles. Je penserais par exemple, vous avez nommé votre studio à Bamako le H Camara.
Oui, oui.
Pourquoi vous avez donné ce nom au studio?
Ben, j'ai donné ce nom au studio parce que H Camara, je l'ai connu, c'était quelqu'un qui avait des convictions et qui a été assassiné à cause de ses convictions. Et pour moi, des gens qui sont tués comme ça à cause de leurs convictions ne doivent pas être oubliés parce que c'est des gens qui sont morts pour nous. L'autre raison aussi, c'est que H. Camara, c'était un grand frère, un ami. C'est une personne qui m'a hébergé chez lui pendant près de 3 ans. Et donc, pour moi, c'est en même temps une reconnaissance, quoi. Mais même si j'avais pas habité chez lui, le fait qu'il soit mort, qu'il ait été assassiné à cause de ses convictions mérite qu'il soit une personne qu'on ne doit pas oublier facilement. C'est pourquoi j'ai appelé mon studio, le studio H. Camara. Pour qu'à chaque fois qu'il y a un album qui sort de là, que son nom soit écrit dessus, pour qu'à chaque fois tous les artistes qui viendront du monde entier un jour, j'espère que le studio va continuer à exister, que ça va évoluer, que tout le monde parte avec son nom, que j'ai l'occasion d'expliquer à ces gens-là que H. Camara, c'était un homme de conviction, qu'il a été assassiné simplement parce qu'il était membre d'un parti politique. Et un acteur très très connu, en Côte d'Ivoire, mais qui avait des convictions, qui a trouvé que il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui méritait qu'il accorde son crédit, Et c'est la raison pour laquelle il a été tué. C'est pour cette raison qu'il a été tué.
Vous parlez des espérances que vous avez pour votre studio. Vous avez fondé votre propre étiquette et vous donnez votre appui à d'autres artistes, autres réalisateurs qui œuvrent dans ce genre de musique. Vous avez cette année plusieurs albums qui vont sortir, en outre celui de Beta Simon. Parlez-moi un peu de votre prise en charge de cet aspect de la production musicale.
Ben, vous savez, moi aujourd'hui, j'ai monté ce studio... pour une raison, c'est que je trouve anormal que la Jamaïque, qui est un petit pays de 3 millions d'habitants, soit représentée par des centaines de stars du reggae dans le monde. Et que l'Afrique, qui est tout un continent peuplé de, je dirais, de plusieurs millions d'habitants, soit représentée que par deux ou trois noms, dont Alpha Blondie, Lucky Dubé, qui est sud-africain, Alpha Blondie, ivoirien. Et bon, Tukendia qui commence aujourd'hui à être connu. Et puis, donc, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est fait le sens aujourd'hui parce que ceux qui étaient là avant nous n'ont pas donné un coup de main à la nouvelle génération. Parce que les Jamaïcains sont nombreux aujourd'hui parce qu'ils sont solidaires. Et il faut que les reggae-man africains soient solidaires pour que nous puissions être nombreux et pour que nous puissions prendre. Qu'on puisse prendre la parole pour ce continent qui a besoin de messagers, qui a besoin de porte-parole. Parce que finalement, vous verrez que les partis d'opposition, dans l'intérêt d'avoir l'appui des pays occidentaux, ne prennent plus position forcément pour les intérêts du continent. Ils prennent position tout en faisant attention parce qu'ils se disent qu'un jour, et aussi peut avoir besoin du président français ou du président américain ou du président canadien ou du premier ministre canadien. Voyez un peu. L'objectif, c'est vraiment donner un coup de main à la nouvelle génération de telle sorte que dans quelques années, au lieu que nous soyons trois aujourd'hui, qu'on soit au moins 100 représentants sur le plan international en tant que reggae-man africain.
Je voudrais revenir un peu pour terminer cet entretien. Vous avez écrit en 2004, autour de ces années-là, « Plus rien ne m'étonne ». Et vous avez parlé un peu de ces thèmes, le partage des empires par les Occidentaux. Et vous avez aussi évoqué le partage de l'Afrique. Est-ce que vous trouvez que les conditions de production se sont empirées avec les problèmes politiques ou est-ce qu'il y a, en plus de votre travail, d'autres ébauches maintenant pour cette culture africaine, cet épanouissement que vous recherchez?
Ben, je pense qu'à cause des problèmes politiques, tout est bloqué parce qu'il n'y a pas de structure réelle. Il n'y a pas vraiment de structure réelle dans les pays africains. Il y a des pays aujourd'hui comme le Niger où il n'y a aucun studio d'enregistrement. Aucune structure de distribution d'albums. Donc il y a beaucoup de pays comme ça qui sont bloqués. Il y a beaucoup d'artistes qui sont bloqués sur le continent parce qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de travailler leur art dans des conditions qu'il faut. Donc je pense que tout ça, c'est des problèmes politiques. C'est parce que simplement, les politiques ont toujours mis la culture en dernière position sur le continent. Vous verrez que dans presque tous les pays africains, le plus petit budget, c'est le budget du ministère de la Culture. Parce que pour les leaders africains jusqu'à présent, ils ont toujours vu les artistes comme à l'époque de nos ancêtres, où les artistes étaient des griots, où ils étaient des débrouillards en fait. Pourtant, c'est pour moi, c'est les vrais ambassadeurs. Ce sont eux qui représente bien le continent ou bien le pays ou bien la région. Hein. Donc je pense que c'est vraiment pour des raisons politiques qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bloqués.
My people, dark brown shade of my skin, only hard color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew,
wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah.
Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city.
Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah. Tell me, is it because of my color? Something is holding me back.
Like a child stealing his first piece of candy, got caught.
Wandering round life's corner, somewhere I got lost.
Something is holding me back. Is it because I'm black?
I wanna know, I wanna know, yeah.
Something is holding me back.
Is it because I'm black? Tell me, can't you see?
Somebody, please tell me, is it because I'm black?
Is it because of my color?
I and I would I know, I and I would I say, I and I reconsider, I and I see a full that Christopher Columbus, Caesar, dumb blasted liar. Come on, 12 tribes of Israel, come on,
up. I hold you for pelo, pelo. Come on, 12 tribes of Israel. Come on, 12 tribes of Israel. Out of John down land, yeah. Yeah, yeah. Christopher Columbus is a dumb blasted liar. Christopher Columbus is a dumb blasted liar. Yeah, yeah. He's a liar. Yeah, yeah.
CKUT. Sure, Dad.
Na 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 na.
sat there from 4 to 7 p.m. I listened to the West Indian rhythm on CKUT 90.3 FM with the one and only Howard Stretch Carr. Na na na.
CKUT Radio.
Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada. CKUT.
It's time to take sampling to a whole new level.
Pleasant good afternoon to you, Montreal. Welcome to West Indian Rhythms. My name is Howard Carr. And the co-host of the show,
Thief Sankar.
And along with the rest of the crew,
DJ Nicholas.
Special.